Voilà, donc on a eu droit de se trémousser sur le chef-d'œuvre de la Blaxploitation, Shaft. Voilà. J'ai remis les mystérieuses cités d'or, oui, parce que j'ai oublié mon CD de Terre-Mer, donc voilà. Donc je vais vous parler des contes de Terre-Mer, actuellement au cinéma, de Gorō Miyazaki, donc le fils du grand Hayao Miyazaki.
Voilà, qui porte le nom d'un mec de Mortal Kombat.
Et oui, voilà, donc Gorō, c'est aussi ce gros boss dans Mortal Kombat qui a deux paires de bras, ce qui est plus pratique pour dessiner. Voilà.
Comme quoi tout s'explique.
Voilà, voilà. Ce qui fait qu'il a pu faire ce film très rapidement, en fait. Les contes de Terre-Mer, Tales from Earthsea, c'est donc à la base c'est une série de romans de Ursula Le Guin. Le Guin, je sais pas comment ça s'écrit, ça se prononce en tout cas.
Le Guin, je pense que ça se prononce.
Le Guin, d'accord, ok. Ursula Le Guin. Donc ça raconte quoi? Alors c'est très très obscur hein, ce que ça raconte, c'est dans un monde qui s'appelle donc Terre-Mer, en opposition au monde des dragons qui s'appelle qui est composé du ciel et du feu. Donc le monde des humains là, ça c'est le monde de la terre et de l'eau, parce que il y a très longtemps avant les dragons et les humains ils vivaient ensemble, et puis les humains ils ont choisi la richesse, je crois, donc voilà, ils sont accaparés à la terre et l'eau, et les dragons ils ont choisi la liberté, et donc du coup ils sont partis vivre dans l'air et le feu. Donc il y a un équilibre comme ça, le monde de Terre-Mer repose aussi sur l'usage de la magie. Alors qu'est-ce que la magie dans cet univers? La magie repose sur le vrai nom des choses, et à savoir que chaque chose et chaque individu a un nom véritable qui est secret. Donc que chacun connaît. Et donc le pouvoir des magiciens, c'est qu'ils connaissent le nom véritable des choses. Et quand on connaît le nom véritable des choses, on peut les manipuler. Voilà. C'est un concept assez intéressant. Et donc très bien utilisé, je pense, par Ursula Le Guin dans ses romans.
Oui. Surtout, je vais faire une petite précision donc sur Ursula Le Guin.
Vas-y.
Qui est l'une des premiers grandes auteurs donc au féminin de la science-fiction et de la fantasy, puisqu'elle a écrit dans les années 50 et les années 60. Qu'elle a écrit surtout en réaction à tout ce qui est Seigneur des Anneaux et toute une tradition de l'heroic fantasy qui mettait plus l'accent sur l'héroïque. Elle, son truc, c'était plutôt la fantasy, donc une approche un peu plus poétique de tout cet univers. Ça reste quand même de l'heroic fantasy, hein.
Et même quelque chose de plus psychologique et plus politique.
Exactement, parce que en plus, c'est la fille d'un anthropologue et d'un linguiste. Donc, elle a de qui tenir, je veux dire. Très très intéressée par l'approche sociologique, historique des sociétés humaines. Voilà, ce qui donne un peu. C'est pour ça que Terre et Mer est très différent, en tout cas, de ce que les gens avaient l'habitude de lire à l'époque, donc dans l'heroic fantasy. Et on peut dire que de nos jours, les descendantes, enfin les gens qui sont inspirés de ça, sont là, beaucoup d'auteurs féminins de l'heroic fantasy, les gens qui ont fait l'Assassin Royal ou Marion Zimmer Bradley avec le cible de Ténébreuse. C'est Ursula Le Guin a vraiment eu une influence dans la façon d'écrire l'heroic fantasy. Voilà, c'était tout.
Donc, à savoir aussi qu'elle est quand même étudiée en université aux États-Unis. Donc voilà. J'ai présenté un peu l'univers de Earthsea. Ça va raconter donc l'histoire d'un jeune prince qui s'appelle Aren, qui est le prince d'Enlad, et qui est en fait un anti-héros. C'est la première fois dans un Ghibli quand même, puisque au début du film, il va simplement assassiner son père.
Ah, quand même.
Qui est un roi aimé de son peuple et tout. Et lui, il l'attend il le surprend dans un couloir tout seul. Il le poignarde pour juste lui chourer son épée. Voilà, c'est un crime complètement gratuit. Donc voilà, ça donne déjà le ton du film. Un parricide gratuit comme ça. Et donc il vole son épée et il va s'enfuir. Puis il va rencontrer un magicien, enfin un sorcier, qui s'appelle Épervier dans la version française. À partir de là, ça commence à devenir un peu étrange, le film, puisqu'on ne sait pas où ils vont. ça devient un peu road movie. Alors ils vont passer dans une ville. Aren va rencontrer une jeune fille. Enfin, il va lui sauver la vie plutôt, parce que la jeune fille était sur le point de se faire violer. Oui, c'est très joyeux. Hein. Après qu'Aren ait découvert les joies de la drogue. En voyant dans une petite rue paumée, il voit des drogués qui sont en train de crever dans la rue, voilà, c'est. Et donc il va sauver cette jeune fille qui est sur le point de se faire violer par un marchand d'esclaves. Donc la fille s'enfuit et lui il casse la gueule au méchant parce qu'il a des grosses poussées de violence quand même. Et avec son épée qu'il peut pas dégainer d'ailleurs, mais ça empêche pas de taper avec son épée quand même. Il donne des gros coups de fourreau dans la tête.
D'accord.
Voilà. Et puis donc voilà, après il se met à marcher avec son copain sorcier là, puis on sait pas trop où ils vont, mais en tout cas ils y vont. Et puis ils vont s'arrêter dans une ferme, ils vont se reposer un peu, voilà, et donc dans la ferme en question, ils vont retrouver Thénard, qui est donc une ancienne amie donc d'Épervier. Et comme par hasard, la jeune fille que Aren avait sauvée quelques jours plus tôt habite dans cette ferme aussi. Donc elle s'appelle.
Pourquoi le hasard, hein?
Elle s'appelle Teru, et donc elle a moitié du visage brûlé. Et Thénard explique qu'elle l'a recueillie alors qu'elle était maltraitée par ses parents, d'où la brûlure sur le visage. Donc on préfère pas savoir ce que lui faisaient ses parents. Donc voilà, à partir de là, moi je me suis dit d'accord, c'est super, mais on sait pas où est-ce que ça va. Et puis passé la première moitié du film, il va commencer à se passer quelque chose quand même. Il y a une grosse méchante qui devient un gros méchant dans la version française. C'est assez particulier. Oui, tout est traduit au masculin le concernant dans la version française. Bon, je sais pas, ça ressemble à une femme, c'est habillé comme une femme, ça a une voix de femme, mais dans la version française, c'est un homme. dans le sous-titrage en tout cas, je sais pas pour la version doublée. Donc c'est Arachnéide, Kumo dans la version originale. Et donc cette personne cette personne bouscule l'équilibre de la magie et du monde puisque elle veut ouvrir la porte qui sépare la vie de la mort. Enfin, en gros elle veut la vie éternelle quoi. En gros elle veut l'immortalité.
C'est marrant, ça rappelle l'un des personnages dans un truc fantasy, la Lodos.
Oui.
Enfin bref.
Carla, la sorcière grise, c'est encore autre chose. Elle, c'est pas l'immortalité qu'elle veut. Elle surveille l'île pour contrôler l'histoire.
D'accord. Ok. Excuse-moi donc. Ah bah. Voilà. Bon, je me tais. Vas-y, continue.
Donc voilà. Puis après, donc l'histoire va tourner autour de ces six personnages. Donc Aren, Épervier, Thénard, l'ancienne sorcière, Teru, la jeune fille, et puis donc Arachnéide, la grosse méchante, avec Usagi, son
âme damnée.
Voilà, oui, c'est ça, son âme damnée.
D'accord, et est-ce que tous ces gens vont quand même quelque part d'ici la fin du film?
Bah, finalement, oui, bah, ça finit en gros baston.
D'accord.
Voilà, puisque donc la grosse méchante réussit à kidnapper Aren, d'ailleurs, pour en faire quoi? C'est une bonne question. Faut pas trop me le demander.
Tu t'es endormi à ce moment-là, c'est ça?
Non, pourtant je me suis forcé de bien suivre le film, et je te dirais que là, en y repensant, il y a des choses qui m'échappent. Déjà, j'ai pas compris pourquoi l'équilibre du monde était perturbé, parce que cette personne-là cherche l'immortalité. C'est un peu confus. J'essaie de me rappeler pourquoi elle a besoin d'Aren pour. Je sais plus. En tout cas, elle kidnappe.
Elle en a besoin.
Elle kidnappe Aren. Aren, donc. Qui a son ombre qui lui court après. Depuis le début du film, il est poursuivi par quelque chose, et en fait c'est son ombre.
D'accord.
En fait c'est la part obscure qui est en lui. C'est pas vraiment son côté négatif, c'est son côté mortel dont il a très peur. Il a très peur de la mort en fait. Il a très peur de ce côté mortel, et donc il fuit cette ombre qui est donc en fait l'acceptation de la mort.
Ouh là là.
Et donc il fuit cette entité qui poursuit et qui essaye de le rattraper.
D'accord.
Et quand Arachnéide le kidnappe et l'enferme dans son château,
eh ben la mort le rattrape.
Non, justement, parce que l'ombre ne peut pas pénétrer dans le château. Donc à partir de là, l'ombre va dépêcher Teru pour lui demander de récupérer Aren. Et donc Théroux va se jeter dans le château à corps perdu, et puis en même temps il y a Thénard, la copine d'Épervier qui se fait aussi enlever. Épervier aussi, je crois que oui, Épervier il va se battre contre Arachnaïde, mais dans le château d'Arachnaïde, ce qui est une très mauvaise idée d'aller se battre contre un sorcier sur son propre terrain. Donc il se retrouve en cellule avec Thénard. Et donc là, c'est à Théroux de tout faire. Elle va libérer Béarène et puis ça va se finir en combat final.
Ok. Bon, alors que pensez-vous de cette histoire ? Ça m'a l'air quand même super confus et pas facile quand même.
Ouais. C'est plein de métaphores, plein de symboles. Mais ceci dit, Gorō Miyazaki s'en sort quand même bien. Et ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est qu'il essaye d'utiliser des méthodes de narration façon Ghibli qui collent pas avec sa propre narration, je trouve. Ce que je veux dire, c'est que à un moment, donc au milieu du film, il y a une grosse lenteur, hein, on sait pas où il va. C'est la petite vie à la ferme, dans une petite ferme là. Et normalement dans un Ghibli c'est très agréable, on suit tout ce qui se passe là, on apprend à connaître les lieux, on se retrouve, voilà. Et ben non, ça marche pas dans ce film, ça marche pas. On a une succession de scènes qui sont pas vraiment raccordées, et ça marche pas. Donc c'est un des détails qui me pousse à penser que il aurait pas dû faire ce film chez Ghibli. C'est un film qui aurait pu être fait chez Sunrise ou Madhouse avec Kawamori. Non, peut-être pas Kawajiri non plus, non. Non, je pensais Shoji Kawamori, tu vois, ce genre de personnes qui ont plus travaillé sur des projets comme Escaflowné ou ce genre de choses. Bon, même si Terre-Mère, c'est un peu plus profond quand même, il faut le dire. Donc voilà. Au final, on a quand même un film un peu lent au milieu, une grosse scène d'action à la fin. On a un film très dur, surtout. Hein, c'est pas la peine d'emmener votre gamin qui a aimé Totoro. C'est pas ça.
C'est pas du tout la même catégorie.
Voilà, c'est aussi ça. C'est que pourquoi avoir fait ce film chez Ghibli, c'est pas du tout la ligne éditoriale. Hein. Même Mononoke, on a vu des têtes qui volaient, mais c'était pas au niveau de Terre-Mère. Rien que la scène de départ quand il chope son père, quand Aren chope son père dans un couloir, il le poignarde, c'est extrêmement violent. J'ai vu certaines scènes dans le film, il y avait des gamins dans la salle, alors c'était la version sous-titrée, il y a deux gamins, bon voilà. Et je me suis dit, mais ça va pas leur faire peur, ces scènes là il y a une scène où Aren fait un cauchemar justement, où il est rattrapé par son ombre, et c'est extrêmement horrible. Et enfin voilà, parce qu'on voit un Aren qui a des gros trous à la place des yeux, qui est des trucs qui est énorme, quoi. C'est assez horrible. Donc voilà, pourquoi avoir fait ce film chez Ghibli, c'est la grande question. Bon, c'est sans doute que Gorō Miyazaki voulait prendre la suite de son père, hein, donc on a ce... Par exemple, la scène du père du meurtre du père au début du film n'est pas dans le roman. C'est quelque chose qu'il a rajouté, donc on peut se demander s'il n'y a pas un message derrière ça, hein, si tu passes symboliquement l'image de son père pour faire son propre film, c'est son premier film. Il y a des choses comme ça qui ressortent par rapport à Gorō Miyazaki. Au final, donc, on a quand même un bon film, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, je pense qu'il sera capable de faire mieux. Et s'il fait des choses aussi violentes, il faudrait pas qu'il reste chez Ghibli. Bon, quand même, la presse japonaise, on va peut-être abuser, mais la presse japonaise a sorti que c'était le plus mauvais film d'animation de l'année. Bon,
il y a pire, je pense.
Ouais, il y a sans doute eu pire. Bon, très violent. Bon, les concepts sont compliqués, mais c'est très bien raconté. Donc en fait, ça glisse tout seul. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment très sympa. C'est vrai, quand on y réfléchit après, les concepts sont très compliqués. Mais ça glisse tout seul. Ça, c'est bien écrit, en fait. Je ne connais pas le roman original, mais c'est vrai qu'on a...